Au quotidien, avec Clotilde Seil.
Bienvenue tout le monde à cette émission au quotidien. Je suis maintenant dans le Journal de Montréal. Plus précisément, je consulte la une du Journal de Montréal. Un premier gros titre, c'est « Forcée de changer d'école, comédienne dans les beaux malaises, elle est victime d'intimidation ». Elle s'appelle Émilie Bière et oui, elle est intimidée à l'école. Vous savez, c'est la petite comédienne, elle est comédienne depuis l'âge de 5 ans et elle a vécu un véritable calvaire à l'école dès son arrivée au primaire. En première année, la fillette a été victime d'intimidation de la part d'un jeune garçon qui a poursuivi son manège durant 2 ans. Et l'an dernier, les moments de harcèlement se sont reproduits, cette fois-ci de la part d'une autre fille. On me disait qu'on allait tuer ma famille, que je n'aurais plus personne pour m'aider, pour m'accompagner, que j'allais me ramasser toute seule, que personne ne m'aimait, que je ne méritais rien, raconte la jeune fille. L'an dernier, l'intimidation verbale de l'autre élève a empiré au point d'en venir à la violence physique. Quand elle est revenue de l'école après avoir reçu 2 coups de poing de son instigatrice, c'est là que nous avons décidé d'agir, a dit la maman de la jeune comédienne Tatiana Renard. Alors, est-ce en raison du travail de comédienne qu'Émilie a été victime d'intimidation, écrit Raphaël Gendron-Martin. Je pense que oui, répond la mère. Il y a même un adulte qui l'a traitée de petite vedette. Le pire, c'est qu'Émilie ne parle jamais de ses tournages à l'école. Elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas en parler. Au début, ça suscitait de l'intérêt auprès des jeunes, mais à la longue, ils se reviraient contre elle. Il y a de la jalousie par rapport à ce que je fais, indique Émilie. Mes parents m'ont beaucoup soutenue là-dedans, mais je n'avais plus beaucoup d'amis à la fin. Pauvre petite chouette. Un autre grand titre à la une du Journal de Montréal ce matin. Savez-vous que c'est un jeu d'enfant de tromper le fisc? Par exemple, il vous suffit de créer une fausse religion. Et c'est ce qu'un journaliste du Journal de Montréal a fait. On peut inventer une église fictive, écrit Nicolas Lachance, et ainsi on ne paye pas d'impôts. Au moment où Québec intensifie la lutte à l'évasion fiscale pour augmenter ses revenus, c'est un vrai jeu d'enfant de créer une religion de toutes pièces. Et ainsi, ne pas payer d'impôts, il suffit de débourser 200 $, de remplir quelques formulaires et le tour est joué. Le journal vous présente l'Église Jésus-Christ Rédemption, une coquille nous permettant d'avoir accès à tous les avantages fiscaux des organismes sans but lucratif en OSBL. L'objectif de notre Église est purement charitable, avons-nous écrit au registraire des entreprises afin de recevoir nos lettres patentes. Lors de la création de cette société religieuse, aucun employé du gouvernement n'a posé de questions, demandé d'explications ou douté de notre démarche. Pourquoi ? La réponse est simple. Au Québec, il est tout à fait légal de créer sa religion et de mettre sur pied une Église. Ça swing maintenant dans le studio avec le mystère PKP, selon Richard Martineau ce matin dans le Journal de Montréal. Décidément, PKP n'est jamais là où on l'attend, écrit Martineau. Vous croyez que la naissance de TVA Sport et l'arrivée de Québecor dans l'univers du sans-fil lui ont donné le goût d'amener son entreprise encore plus loin? Il quitte son poste pour se lancer en politique. Vous croyez qu'il se réveille la nuit pour haïr Radio-Canada? Il publie une déclaration d'amour à la SRC. Vous croyez qu'il trouve que le Québec est trop dans le rouge? Il accorde une entrevue au Devoir, affirmant que la dette n'est pas aussi considérable qu'on le dit. Vous croyez qu'il n'est plus avec Julie Snyder? On ne les a jamais vus autant ensemble. Que le vrai PKP se lève si l'ex-grand patron de Québecor était une émission de télévision, elle s'appellerait Extreme Makeover. Ou alors, ce serait une émission inspirée du show controversé de Jean Héroldi. On dépose ses récentes déclarations dans une boîte en verre et on demande aux gens s'il est à droite ou à gauche. Devine de quel côté je penche. Je suis sûr que le résultat serait 50-50. Il y a aussi dans le Journal de Montréal Christian Dufour qui est allé voir le film Mommy, le film événement de Xavier Dolan qui a ému Cannes. Il dit l'expression coup de poing aurait pu être inventée pour cette œuvre exceptionnellement forte et touchante, susceptible de rejoindre bien des gens un peu partout dans le monde. Comment oublier cette scène dans la cuisine quand la mère, la voisine et le fils dansent et chantent sur On ne change pas de Céline Dion? La langue de momie, une version très caricaturale du joual québécois, n'est pas le langage réellement parlé dans les milieux populaires. J'ai eu suffisamment dans ma vie un côté chat de gouttière pour savoir comment parle le peuple québécois. Momie n'étant pas un documentaire, Xavier Dolan est évidemment libre de ses choix artistiques. Et si cela ne concernait que son film, véritablement exceptionnel, je ne vous parlerai pas ici de la langue du cinéma québécois. Mais Dolan est loin d'être le seul à favoriser un joual hard inventé. Écrit toujours M. Dufour. Beaucoup de nos cinéastes semblent triper au maximum sur cela, par solidarité supposée avec le peuple, esthétisme noir et, bien sûr, facilité. En cas de doute, la recette est manifestement d'en mettre plus que moins. Un Chris ou un tabarnak supplémentaire ne peuvent jamais nuire. Il est difficile de ne pas faire le lien entre ce joual caricatural et le français pointu qui régnait naguère dans les productions culturelles du Canada français. Avant que le joual n'obtienne ses lettres de noblesse en 68 avec les belles-sœurs de Michel Tremblay. En fait, on est passé d'un extrême à l'autre. L'utilisation complaisante par les auteurs d'aujourd'hui d'un joual aussi exagéré qu'artificiel n'est pas meilleure que le français un cul de poule de leur devancier canadien-français. Comme plusieurs, j'avoue que j'ai moins tendance à aller voir les films québécois indépendamment de leur qualité. C'est sans doute que je les associe à un misérabilisme déprimant qui n'est pas sans rapport avec l'abus du joual. J'ai vu récemment la plupart des films étrangers à l'affiche du cinéma Le Beaubien avant de me décider à aller voir 1987, après avoir réalisé que son réalisateur, Ricardo Troggi, était l'auteur du merveilleux Québec-Montréal. Encore là, autant Troggi fait preuve de talent dans ce film populaire se passant dans cette ville de Québec que je connais bien, autant l'utilisation exagérée d'un joual parfois incompréhensible est énervante. Toujours dans le journal ce matin, Lise Ravary écrit « Environnement des bonnes nouvelles ». Elle nous dit « Madame Ravary, quand je pense au changement climatique, à la pollution, les yeux me partent en spirale. Comment s'y retrouver dans ce dédale d'informations contradictoires ?» Et puis, depuis le temps qu'on prédit que notre appétit pour les accessoires de la modernité, automobiles, chauffage central et autres couches jetables allait nous mener au bord de l'abîme, on a parfois l'impression d'entendre crier au loup. Dans les années 80, les experts prévoyaient que les pluies acides auraient raison de la vie sur Terre. Je me souviens d'un panneau gris sur le bord de l'autoroute des Laurentides, montrant une forêt dévastée coiffée du slogan « Il pleut à mourir ». Cette crise aussi réelle que les changements climatiques d'aujourd'hui a incité le Canada de Brian Mulroney et les États-Unis de Bush père à signer un accord qui forçait, entre autres pollueurs, les centrales au charbon à nettoyer la fumée de leurs cheminées. En 2012, les émissions polluantes avaient chuté de 57 % au Canada et de 67 % aux États-Unis par rapport à 1990. Tout cela grâce au travail concerté des entreprises et des États, sans avoir à renverser le système, comme le souhaite la Canadienne Naomi Klein dans son dernier best-seller international sur l'environnement, « This Changes Everything, Capitalism contre Climate ». La couche d'ozone, ça vous chatouille la mémoire? Après avoir sonné l'alarme en 1974 sur les dangers des chlorofluorocarbures, des gaz de serre utilisés dans la réfrigération et les aérosols, deux scientifiques américains confirmaient en 1985 l'existence d'un trou dans la couche d'ozone au-dessus de l'Antarctique. Alertés en 1987, les pays industrialisés ont ratifié le protocole de Montréal, la première entente globale sur l'environnement, et celle qui a connu le plus grand succès. Non seulement la couche d'ozone est-elle en voie de se reconstituer, mais selon The Economist, le protocole a contribué plus que toute autre mesure ou législation à la réduction des GES à ce jour. Plus que les énergies renouvelables, le nucléaire, la réduction des émissions des moteurs à essence et la chute de l'URSS réunies. Si les signataires du protocole de Montréal décidaient d'interdire aujourd'hui le produit de remplacement des CFC, les HCFC, moins dommageables pour la couche d'ozone, mais aussi dangereux comme GES, cette mesure permettrait de réduire les émissions de GES de 135 millions de tonnes sur 30 ans, autant que le protocole de Kyoto. Le problème ne serait pas réglé pour autant. Il faudrait faire le deuil éventuel des énergies fossiles, mais au-delà de la sinistrose et des appels au renversement du système, J'aimerais rappeler, écrit Madame Ravary, certains faits aux crypto-socialistes de l'environnement. 1. Dans les pays développés, les choses s'améliorent. 2. À eux seuls, les États-Unis, la Chine et l'Union européenne subventionnent les énergies renouvelables à hauteur de 140 milliards annuellement. Il va falloir créer la richesse, de la richesse pour remplacer le pétrole. Et puis 3, écrit-elle encore, quand on crie au loup, plus personne n'écoute. Oui, c'est vrai, Madame Ravary. Mais dans les régions un peu moins développées que chez nous, ça fait mal. Rapidement avec Martine Desjardins, les élections scolaires, est-ce que c'est nécessaire, se demande-t-elle? Il faut vraiment aimer la politique et le milieu scolaire pour se présenter aux élections scolaires du 2 novembre prochain, particulièrement dans la grande région de Montréal, alors que s'est engagé un bras de fer entre le ministre de l'Éducation Yves Bolduc et la CSDM sur les coupures à faire au budget de la plus grosse commission scolaire au Québec. Ce bras de fer ne fait que commencer, écrit-elle. Les candidats à l'élection scolaire, notamment l'opposante à la présidence de Mme Arelle Bourdon, Jocelyne Cyr, devra proposer mieux et vite si elle le peut. Mais après avoir fait autant de coupures, que reste-t-il à sabrer, se demande Mme Martine Desjardins. Que reste-t-il à sabrer sans toucher aux services, aux élèves? Je vous parlerai bien un peu plus bas pour vous dire ce qui suit, mais vous ne pourriez pas m'entendre, alors je vais dire ça. À voix normale, nous sommes maintenant à la une du Soleil avec une photo de Guylaine Tremblay. C'est exclusif. Unité 9 pourrait bien se retrouver dans les tôles de France. Les Français seraient intéressés à cette série qui se passe à Lietteville. Cyberattaque contre le DGE, le système informatique du directeur général des élections du Québec est submergé par des alertes d'intrusion tellement que l'organisme public appelle le privé en renfort. Le gros titre, c'est cette photo de Jean-Philippe Auclair, JP Auclair, alors qu'il était en Nouvelle-Zélande et surtout alors qu'il était bien vivant l'été dernier, en 2013, en fait l'an dernier. Eh bien, il serait mort au Chili, ce skieur de Cap Rouge, ce passionné de glisse et de descente extrême. Il serait mort emporté par une avalanche. On dit il serait parce qu'au moment où ils ont mis sous presse, ce n'était pas encore confirmé, mais j'imagine que ce l'est maintenant. Alors qu'il était en tournage au Mont San Lorenzo, tard hier soir, la famille avait toujours l'espoir de retrouver le nouveau père, parce qu'il était papa depuis peu de temps en vie, alors que personne n'aurait confirmé sur le terrain le décès de l'athlète qui se spécialisait dans les prouesses en ski hors piste. Monsieur Auclair aurait trouvé la mort lundi en compagnie d'un autre casse-cou, le skieur suédois Andreas Fransson. Les athlètes étaient arrivés vendredi à Cochrane, dans la région d'Ezen, en Patagonie, dans le sud du Chili. Ils marchaient dans la montagne lorsque l'avalanche est survenue. On nous dit dans cet article du Soleil, écrit par Mathieu Boivin, que le skieur J.P. Auclair était connu partout dans le monde en raison notamment de ses nombreux films mettant en vedette ses prouesses en ski hors piste. L'homme d'affaires était un des cofondateurs de la compagnie d'équipement Armada Ski et avait mis sur pied une fondation, Alpine Initiative, qui a comme objectif de développer des projets de solidarité sociale financés par l'industrie du ski. Le magazine National Geographic l'avait nommé finaliste du concours de l'aventurier de l'année en 2014. Nous sommes toujours dans les pages du Soleil avec Fanny Lévesque qui nous parle de Rambo comme un livre ouvert. Comme il avait promis de le faire, Bernard Gauthier s'est livré comme un livre ouvert à Victor Lévy-Beaulieu qui a signé la biographie du coloré leader syndical. De son enfance à son enrôlement jusqu'à sa descente aux enfers après avoir quitté l'armée, Rambo, comme il est cité dans l'ouvrage, aborde sans aucun tabou tous les chapitres de sa vie. VLB a appris un tas d'affaires, semble-t-il. Il raconte qu'il a appris à travers, beaucoup à travers cet homme, qu'il dit beaucoup respecté pour ce qu'il a vécu et ce qu'il est devenu. C'est déjà un exploit de faire ce qu'il a fait, c'en est un aussi de le faire après ce qu'il a vécu. Je pense que beaucoup de gens auraient intérêt à lire sa biographie. Ils apprendront qu'on peut partir du mauvais pied, mais revenir sur le bon, explique l'auteur. VLB a passé 4 mois intensifs à la rédaction de ce livre. J'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à plonger dans son histoire, témoigne celui qui s'est aussi retrouvé dans les propos de Bernard Gauthier. VLB a d'ailleurs choisi d'incorporer plusieurs de ses propres anecdotes dans l'ouvrage écrit Fanny Lévesque. Quelques citations extraits de ce livre sur Bernard Gauthier signé VLB. Lorsqu'il raconte par exemple sa descente aux enfers après l'armée, il dit « Comment j'en suis arrivé là, je peux pas le dire. En quittant l'armée, on dirait que j'ai décollé tout d'un coup et que j'ai été gelé pendant 4 ans ». Des propos qu'il tient dès son arrivée dans le monde de la construction. « Moi, je l'ai toujours dit, la fin justifie les moyens. Si tu veux survivre, attends pas après personne, occupe-toi de tes affaires. » Après la diffusion de l'émission « Enquête » et le battage médiatique qui s'est ensuivi, il explique qu'après l'émission « Arcan », il s'est retrouvé assis dans son pick-up, parqué sur le bout du quai de cette île, et dit-il « J'arrêtais pas de pleurer, j'étais complètement démoli. » La caricature dans le soleil, ouf, elle n'est pas facile à décrire. Nous sommes avec M. Labaume, qui est dos à un mur. Alors, évidemment, il a l'air tout petit, le mur a l'air beaucoup plus grand. Dans le mur, il y a un trou, genre un trou de souris, par lequel trou de souris, on voit un gros nez avec un gros nez rouge, avec un chapeau de clown, avec tout ça. Et, mais bon, évidemment, c'est que ça passe par un trou de souris. Mais derrière le mur, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce nez, c'est le bout de la trompe d'un éléphant. Donc derrière le mur et derrière ce joli petit nez rouge et cette bille de clown se cache un éléphant. Et M. Labaume qui dit « N'ayez pas peur de l'amphithéâtre ». À la une de la Tribune aujourd'hui, 83 postes en danger. L'université de Sherbrooke doit cibler son personnel pour atteindre ses objectifs de compression budgétaire. Et là-dessus, Luc La Rochelle écrit « Le rappel valait 100 piastres ». Le vice-recteur aux ressources humaines et financières, Martin Buteau, a retracé la séquence des événements obligeant la direction de l'université de Sherbrooke à poser un Airbus 380 sur une piste de 50 mètres. Après des compressions de 11 millions qui ne devaient s'appliquer qu'un an, Québec nous a promis un réinvestissement de 132 millions entre 2014 et 2019. Au lieu de recevoir cet argent, les compressions ponctuelles sont devenues permanentes et on nous a plutôt retranché 18 millions supplémentaires. C'est désolé, M. Buteau. Tant qu'à revenir en arrière dans la même institution, à la chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, l'expert Luc Godbout annonçait un crash budgétaire généralisé au Québec à compter de 2013 en raison du vieillissement de la population. L'Université de Sherbrooke a assuré fièrement au printemps 2007 la promotion du livre « Oser choisir maintenant », une œuvre que M. Godbout a co-signée avec d'autres professeurs du département. Pour prétendre aujourd'hui avoir été pris de court, les contrôleurs aériens du rectorat n'avaient visiblement pas les yeux sur les bons radars. Ils ont navigué en gardant le cap sur des promesses politiques de réinvestissement que ni les péquistes ni les libéraux n'ont pu tenir. L'inévitable choc démographique s'est produit, le choc budgétaire a suivi et au lieu d'être en route vers Las Vegas pour toucher le jackpot, voilà les universités québécoises, dont celle de Sherbrooke, en zone de turbulence. Le vice-recteur Buteau a conclu hier son exposé en ces termes. Nous ne sommes plus dans le périphérique. L'université doit en quelque sorte se réinventer. Rien de moins. Une trentaine de postes seront supprimés. L'abolition de 47 autres provoquera une chaise musicale syndicale parmi celles et ceux qui sont protégés par une sécurité d'emploi. Cette année, la secousse n'est pas trop violente puisque ces mesures à incidence directe sur la main-d'œuvre sont chiffrées à 2 millions de dollars sur une masse de 300 millions. On est loin de la purge annoncée la semaine dernière chez Kruger, où le quart des effectifs sera mis à pied. Sauf que les impacts iront en s'accentuant, écrit encore Luc La Rochelle, puisque 48% des économies réalisées par l'université sont des mesures ponctuelles pour l'année courante. Le casse-tête n'est que reporté à l'an prochain. Nous sommes à la une du droit maintenant, en ce 1er octobre 2014. Place fictive et trop perçue, on parle de fraude dans les garderies. Mais ce qui retient l'attention, le gros titre à la une du droit ce matin, c'est collusion dans la construction des millions volés aux Gatinois. Et du coup, Patrick Duquette signe une chronique ce matin qui s'intitule « Le chiffre de la collusion » dont voici de larges extraits. C'était la question du jour hier au conseil municipal de Gatineau. C'est quoi le chiffre ? Le chiffre de la collusion, bien sûr. Depuis le témoignage du directeur régional des COM à la commission Charbonneau, les Gatinois savaient qu'ils se sont fait flouer par des firmes de génie civil qui truquaient habilement les appels d'offres. Il restait à savoir à combien s'élevaient les montants dérobés aux contribuables. On comptait sur la ville de Gatineau pour le savoir. Or, déception hier, le rapport déposé au conseil municipal n'avance aucun chiffre précis. Le maire Maxime Pedneau-Jobin a parlé de plusieurs millions d'argent volé, sans plus. À force de lire le rapport, de faire des liens entre le prix des soumissions avant et après la collusion, il est possible de se faire une idée des montants en jeu. Après quelques calculs rudimentaires, on arrive à une somme d'environ 4 millions de dollars qui aurait été dérobée aux contribuables de Gatineau entre 2003 et 2009. Pendant les années de collusion, la ville de Gatineau se fiait à des barèmes de prix de l'Association des ingénieurs conseils du Québec pour évaluer à l'avance le coût des soumissions. On sait maintenant que ces barèmes étaient fixés par les ingénieurs des firmes collusionnaires. Avec des données aussi peu fiables, la ville peut bien avoir de la misère à chiffrer les coûts, écrit toujours Patrick Duquette. Tant qu'à lancer un chiffre trop haut ou trop bas, la ville préfère éviter de se compromettre. C'est une attitude qui se défend, étant donné que cette saga se retrouvera devant les tribunaux à plus ou moins brève échéance. Il semble acquis que Gatineau entreprendra des recours afin de récupérer les sommes perçues en trop par les firmes de génie civil. Un vol est un vol, s'est indigné hier le conseiller Gilles Carpentier, ajoutant que les contribuables de Gatineau s'attendent à ce que leur conseil municipal fasse tout en son pouvoir pour récupérer les montants volés. Le maire Maxime Pedneau-Jobin affirme qu'il est prêt à se lancer dans une telle bataille. Mais est-ce que son conseil municipal suivrait ? Rien n'est moins sûr. Les grands principes des élus, on l'a vu dans le dossier du 79 Chemin Fraiser, ont tendance à s'éroder à mesure que les frais d'avocat grimpent en flèche. Même si on l'avait eu, ce chameux chiffre de la collusion, on serait sans doute encore très loin de la vérité. Ne l'oublions pas, on ne parle ici que des montants liés à la collusion des firmes de génie civil. Lorsque le droit a fouillé les contrats octroyés par la ville de Gatineau, il a révélé que la concentration des contrats municipaux se vérifiait aussi dans le secteur du pavage. Depuis la fusion, les mêmes firmes ont obtenu la part du lion des contrats, année après année. Pourtant, conclut Duquette, lorsqu'on demandait hier aux élus s'ils souhaitaient étendre leurs enquêtes à d'autres secteurs, on n'a eu droit qu'à des réponses évasives. Cela donne l'impression que la ville de Gatineau ne s'intéresse qu'aux scandales déterrés par la presse ou aux révélations de la commission Charbonneau, à moins qu'elle n'ait tout simplement pas les ressources pour pousser plus loin son enquête. À la une du quotidien, l'industrie forestière attaquée de toutes parts. Le gros titre nous dit que Couillard est appelé à l'aide. Et puis l'autre titre avec photo du maire, le maire de Saguenay, qui est en beau fusil, Jean Tremblay. Pourquoi est-il en fusil? Eh bien, il est question des vignettes de stationnement payant à Saguenay. C'est la première fois que j'entends parler de ça, dit Jean Tremblay. C'est en écoutant la télévision que le maire Jean Tremblay a été mis au fait que Saguenay allait implanter un système de vignettes payantes pour le stationnement sur certaines rues. C'est la première fois que j'entends parler de ça. Si je permets ça, dans 5 ans, on va être la ville des vignettes, dit Jean Tremblay. Ça commence par un petit chiffre, là, mais je vous le dis, si on laisse faire ça, dans 3 ans, ce sera 100 $. 50 $, ça va à l'encontre de toutes mes politiques, a dit le maire en entrevue téléphonique. Ça va finir 100 ou 150, c'est une taxe indirecte. Je ne sais pas où ils ont pris cette idée-là, mais je sais qu'ils ne m'en ont pas parlé. Et ils étaient mieux de ne pas m'en parler non plus, parce que c'est clair que j'aurais refusé. S'il y a des problèmes de stationnement, qu'ils trouvent un moyen sans faire une taxe déguisée. Le premier magistrat assure que l'idée ne lui a pas été acheminée. J'écoutais ça et je n'en revenais pas. Si on commence à faire payer le monde pour le stationnement, après on va les faire payer pourquoi? Ça va finir quand? Dès demain, je vais voir ce qu'on va faire avec ça. Il va peut-être falloir que l'on se creuse la tête un peu, mais on ne taxera pas. Tiens, j'ai un petit peu de temps. Pourquoi pas une caricature ou deux. D'abord celle-ci au sujet du plan Nord. Monsieur Couillard se fait visionnaire. On le voit, les pieds dans du gazon. Autour de lui, il y a des feuilles mortes. Autrement dit, on s'apprête. On va quitter l'été, on s'en va vers l'hiver. Alors, plan Nord, Couillard se fait visionnaire, c'est écrit. Et là, on le voit avec des pics, avec des pioches, avec son chapeau de... Je sais plus là, comment il s'appelait celui-là, l'espèce de cow-boy là, qui portait un chapeau avec une queue derrière. On le voit avec son sac à dos, on le voit avec ses raquettes dans le gazon et on le voit surtout transpirer beaucoup. Et il dit, l'hiver devrait revenir. Et puis celle-ci, on voit Lisée, Drainville, Ouellette et Monsieur PKP sur la ligne de départ. Sondage PKP par favori à la course à la direction du PQ et pour cause, Baudet, il le présente à vélo quand les autres sont à pied.